la parole de Dieu ce matin. Est-ce que vous aimez la Bible? Vous devrez l'aimer parce qu'elle est, vraiment précieuse. Elle contient la parole vivante de Dieu. On peut connaître la pensée de Dieu, connaître sa volonté. C'est merveilleux. Donc, ici à la vie comblée, nous aimons faire une déclaration de la foi. Donc, si vous n'avez pas une Bible avec vous, il y a une feuille que je vous ai donnée, quelqu'un vous a donnée à la porte, avec presque tous les versets que nous allons lire ce matin, qui sont écrits là-dessus. Mais on va prendre cette feuille ou la Bible et on va dire ceci. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et je ne serai jamais plus pareil. Et je serai changé et transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, ce matin, nous allons continuer. Deuxième message dans une petite série que nous avons commencé la semaine passée, le pouvoir de tous ensemble. Et nous avons pris comme texte la semaine passée le psaume 133. Donc, j'aimerais juste lire cela encore ce matin, le psaume 133. C'est tellement puissant parce que nous allons voir aujourd'hui le pouvoir, la puissance que nous pouvons avoir quand nous sommes ensemble dans le Seigneur. Il y a un verset qui dit, Cantique de degré de David, « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. » N'est-ce pas bon de demeurer ensemble? Nous avons vu ça tantôt, tout le monde qui se donne la main, qui se donne les câlins, c'est merveilleux, l'amour qui se partage. Qu'il est doux, qu'il est agréable. Donc, si c'est agréable, si c'est doux pour les frères de demeurer ensemble, le contraire est vrai aussi, n'est-ce pas? Qu'il est désagréable, oh, c'est dur, c'est pas bon, c'est pas le fun. Quand nous sommes dans la division ou en chicane, c'est pas du tout drôle. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, ça, c'est vrai que si on parle d'une famille naturelle, papa, maman, les enfants, si on parle d'un couple, le mari, sa femme, si on parle de n'importe quel groupe de personnes, c'est toujours plus agréable, plus de fun d'être ensemble. Amen. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là, tout le monde dit c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient recevoir la bénédiction de Dieu? N'importe quelle bénédiction, que ce soit une bénédiction spirituelle, émotionnelle, physique, financièrement, dans n'importe quel sens, toutes les bénédictions de Dieu sont toujours envoyées en certaines adresses, n'est-ce pas? Si vous allez envoyer un colis par Pure Letter, quelque chose, il vous demande toujours de remplir une formulaire avec l'adresse, n'est-ce pas? La destination. Savez-vous quoi? Que Dieu a déjà certaines adresses, si vous voulez, qui sont dans son base de données. C'est là où il envoie les bénédictions. Mais c'est pas vraiment un lieu physique. C'est pas une place géographique. Mais c'est plus une atmosphère. Dieu travaille beaucoup dans les atmosphères. Est-ce que vous comprenez cela? Si nous avons créé une atmosphère d'unité et d'harmonie et de paix, c'est là où le Seigneur envoie ses bénédictions. Mais si nous avons la chicane, le zèle amer et toutes sortes de problèmes, vous savez que Dieu, même s'il veut nous bénir, il ne peut pas nous envoyer ses bénédictions dans une telle atmosphère. En fait, la Bible dit le contraire, que là où il y a un zèle amer, il y a toutes sortes des œuvres méchantes, une traduction dit. C'est-à-dire que toute l'œuvre du diable, le diable aussi, il travaille avec le même principe. Satan, notre ennemi, notre adversaire, il travaille beaucoup dans les atmosphères que nous allons créer. Si nous avons une atmosphère de soupçon, si nous avons une atmosphère de crainte, de peur, de doute, d'incrédulité, c'est là où l'ennemi est capable de travailler et de faire son œuvre. Pourquoi? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger. Satan est venu pour détruire. Mais Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait avec abondance. Donc, si on veut, dans le fond, c'est un peu à nous de choisir. Est-ce que nous allons donner place à l'œuvre de l'ennemi dans notre vie ou est-ce que nous allons donner place à l'œuvre de Dieu dans notre vie? Ça, c'est très biblique. Hein? Même dans l'Ancien Testament, Dieu a dit à son peuple, « Je mets devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Il a dit, « Choisissez la vie. » C'est à nous de choisir. Et on peut choisir d'être ensemble ou on peut choisir d'être à part. Et comme on a dit la semaine passée, quand on parle d'être ensemble, cela ne veut pas dire tout simplement d'être au même endroit physiquement. Parce que comme je donne l'exemple d'un parent qui veut offrir un vélo à son enfant pour Noël, si l'enfant arrive le 25 décembre et puis il voit une boîte sous le sapin et dans cette boîte, il y a 1000 morceaux. Et c'est sur la boîte, il y a une image d'un vélo. Mais à l'intérieur, il y a juste des morceaux. Tous les morceaux sont là. Les pièces sont là, sauf que les pièces ne sont pas assemblées. Les pièces sont ensemble. Mais les pièces ne sont pas ensemble. Vous êtes d'accord? Donc, c'est la même chose. Une église peut être comme ça. Une famille peut être comme ça. Un mariage peut être comme ça. Une commerce peut être comme ça. On peut avoir un groupe de personnes assis dans la même salle, mais ces gens ne sont pas forcément ensemble. Ils ne sont pas assemblés, ils sont juste là. Hein? Est-ce que vous connaissez les couples? Ils sont juste là. Vous connaissez les familles, ouais, tout le monde est là, mais ils sont juste là. Ils sont pas là. Hein? Vous comprenez? Mais qu'est-ce qu'on a lu? C'est que c'est là où le Seigneur envoie sa bénédiction. Ou là où les gens demeurent ensemble. Et c'est ça qu'on veut. On veut découvrir qu'est-ce qu'il faut faire pour rester ensemble. On a vu la semaine passée que dans les Actes des apôtres, il y avait une douzaine d'exemples, une douzaine de versets qui parlaient de vraiment qu'est-ce qui se passe quand l'Église était tous ensemble. Et qu'est-ce qu'on a vu que ces mots « tous ensemble » signifient « avec passion et à l'unisson ». Tout le monde dit « avec passion et à l'unisson ». Donc, si on va vraiment être ensemble, il faut être ensemble avec passion et à l'unisson en train de faire la bonne chose au bon moment, avec les bonnes personnes, avec la bonne attitude, n'est-ce pas? C'est ça que nous voulons. Et aujourd'hui, tout simplement, j'ai eu à cœur, quand je priais pour la réunion ce matin, j'ai eu vraiment à cœur de lire un passage de la parole de Dieu, parce qu'encore, la parole de Dieu est vivante, n'est-ce pas? C'est pas la parole du pasteur qui va vous libérer, c'est la parole de Dieu. Et puis, en 1 Corinthiens chapitre 12, si vous voulez tourner avec moi, 1 Corinthiens chapitre 12, on va regarder cela. Mais je pense qu'on a manqué un bout, hein? Si on recule, est-ce qu'on peut... c'est ça. Première chose, parce qu'aujourd'hui, on va voir 7 clés pour rester ensemble. C'est une chose, parce que premièrement, il faut devenir un. Il faut être ensemble. Mais une fois qu'on est vraiment... ensemble avec passion et à l'unisson, il faut rester comme ça aussi. Encore, on prend l'exemple des couples. On voit deux personnes que c'est le coup de foudre et puis ils tombent en amour et ils ont l'air d'être vraiment ensemble avec passion et à l'unisson. C'est toute beauté. Mais combien de vous savez que aujourd'hui dans notre société, il y a la plupart des relations entre les hommes et les femmes ne durent pas trop longtemps. Ils sont ensemble pour un certain temps, et puis ils se laissent, n'est-ce pas? Donc, même chose, dans les églises, il y a des personnes, des fois, ils vont venir à une église, et puis ils sont tout feu, tout flamme, waouh, c'est mon église, j'ai trouvé ma place, c'est ma famille spirituelle, ils ont une passion, ils font les choses avec dans l'unisson, et c'est vraiment merveilleux, jusqu'à un certain moment, et il y a une rupture, il y a une friction, il y a une chicane, et les gens ont une tendance à se séparer, n'est-ce pas? Que ce soit dans un couple, dans une famille, dans une église, dans un commerce, entre amis, il faut apprendre à rester ensemble. Regarde quelqu'un a dit, il faut apprendre à rester ensemble. Amen. Pour quelques-uns de vous, c'est prophétique. Ah, Amen. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir dans le passage de 1 Corinthiens chapitre 12, sept clés bibliques. Et la première clé, c'était ça. Comprenez ce qu'il signifie d'être un. Il faut comprendre qu'est-ce que cela veut dire d'être un. Car comme le corps est un, on dit le corps est un, le corps n'est pas deux, le corps n'est pas trois, c'est pas cinq, six ou dix, le corps est un. Comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Soulignez cette phrase, qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. On va le dire encore, un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. On peut ajouter, parce que Paul l'a dit ailleurs en Galates, soit femme, soit homme, soit quelqu'un avec beaucoup d'éducation ou quelqu'un qui n'a pas d'éducation, soit francophone, soit anglophone, soit chinois, peu importe. Si vous êtes en Jésus-Christ, vous faites partie de un seul corps. N'est-ce pas merveilleux? Mais si nous allons rester ensemble, il faut avoir la révélation de cela. Nous ne sommes pas deux. Dans un mariage, les deux deviendront, quoi? Une seule chair. C'est pourquoi Paul a dit au mari, Marie, aimez vos femmes, comme Christ aime l'Église. Il dit aussi que chaque homme doit prendre soin de son épouse, comme il prend soin de quoi? Lui-même. Il faut avoir la révélation, messieurs, que ce que je fais à mon épouse, je le fais à moi-même. Et en plus, qu'est-ce qui est encore plus important, je le fais à Jésus, parce que nous sommes une seule plante avec le Seigneur. Savez-vous quoi? Que quand quelqu'un touche un chrétien, que le Seigneur Jésus prend ça personnel, il prend ça très personnel. Si on touche une personne pour le bien, le Seigneur prend ça personnel. On le voit en Matthieu, n'est-ce pas? Il a dit que les gens sont venus, « Hey, tu es venu me visiter en prison, tu m'as donné la nourriture, tu m'as donné des vêtements. Quand est-ce que nous avons fait ça? » Il a dit, « Quand tu l'as fait pour le moindre de ses frères ici, tu l'as fait pour moi, n'est-ce pas? » Donc, quand on fait du bien à un autre chrétien, une autre personne, là, on fait du bien au Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on fait du bien à un autre chrétien, on fait du bien à soi-même aussi. On ne peut pas aider une autre personne sans s'aider soi-même. Il faut avoir cette révélation. C'est comme je donne souvent l'exemple de deux couples qui, nouveaux mariés, qui faisaient du canotage et, bon, ils voulaient prendre une belle journée relax sur le lac. Et puis, tout d'un coup, la madame qui est en avant dit, « Ah, chérie, il y a un problème. Le canot commence à couler. Il y a un trou ici. » Et puis, le monsieur, il répond, « Mais ouf, une chance que c'est de ton bord et pas le mien. » Écoute, si madame coule, monsieur va couler avec, n'est-ce pas? Il faut avoir cette révélation de qu'est-ce que cela veut dire d'être un. Vraiment, pas juste dans la tête, mais une révélation. Que quand je vois mon frère ou ma sœur réussir, je suis en train de réussir. Quand je vois quelqu'un en train d'avoir des luttes, des problèmes, moi aussi, c'est une lutte pour moi. Il faut grandir dans ce domaine. Il faut arriver à la place où on est vraiment un, et surtout dans les mariages. Imaginez si on avait une église remplie de couples qui avaient cette révélation que nous faisons un dans le Seigneur. Et puis dans les familles et dans les églises, au moins les églises locales devraient faire un. Parce qu'une fois que nous faisons un, il faut que nous apprenions à faire un avec les autres assemblées. Mais le problème, c'est que l'unité n'a même pas commencé à la base. Et on peut aller même plus loin que les couples, les individus. C'est là vraiment la racine du problème. C'est que la plupart des gens qui sont en Christ, ils n'ont pas compris qu'est-ce que cela veut dire d'être un avec Jésus. Donc, si une personne n'a pas la révélation du fait que je fais une seule plante avec Jésus, Jésus est la tête, mais je suis un membre de Jésus. Saul, quand il était sur la route de Damas et il persécutait les chrétiens, il a entendu une voix du ciel en disant, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Et c'est Jésus qui parlait. « Qui es-tu, Seigneur? » C'est Jésus. Jésus a pris ça personnel quand Saul a mis les chrétiens en prison, et quand il a lapidé Étienne, il a pris ça personnel. Quand Saul a touché aux chrétiens, il touchait à Jésus. Mais par la suite, Paul a eu une révélation de qu'est-ce que cela signifie d'être une seule plante. C'est lui qui a dit aux Corinthiens que nous sommes une seule plante avec Jésus. Il comprenait cela. Et si les individus puissent saisir la réalité, nous sommes un avec le Seigneur, là je peux être un avec mon épouse, je peux être un avec ma famille, je peux être un avec mon église, et notre église peut être un avec les autres églises, amen? Là on a quelque chose qui est agréable, quelque chose qui est doux, et c'est là où le Seigneur envoie la bénédiction. Amen? Donc deuxième chose, ne donnez jamais place, si vous voulez rester ensemble, ne donnez jamais place à un sentiment d'infériorité. Un sentiment d'infériorité. Moi, je pense que c'est important même de souligner le mot sentiment, parce que c'est ça. Quelqu'un qui pense être inférieur, c'est un sentiment. C'est pas la réalité, c'est juste ce qu'il sent. Je ne me sens pas à la hauteur. Est-ce qu'il y a des gens qui savent c'est quoi d'avoir un sentiment d'infériorité? Hein? Pas besoin de lever la main. Peut-être tu as un petit complexe, tu ne veux pas lever la main, non. Moi, je sais c'est quoi. Moi, j'ai vécu longtemps avec un sentiment d'infériorité. Hein? Surtout, j'avais une petite période dans ma vie, quand j'étais très jeune, où ma famille était rupturée et j'avais des problèmes, etc. J'étais tellement... on pourrait dire bousculé dans mes émotions, que quand je suis arrivé à l'école, j'étais toujours dans la lune parce que j'étais vraiment déprimé et tout. Mais à cause de ça, je réussissais plus à l'école. Et avant ça, j'avais toujours des très bonnes notes. Mais là, j'arrivais à une place où j'ai réussi plus. Ma famille était en désordre jusqu'au moment que ma mère a donné sa vie au Seigneur Jésus. Et puis quand elle est revenue à la maison, j'avais 10 ans. Donc il y avait comme une année vraiment affreuse où j'étais vraiment, vraiment pas bien dans ma peau. Mais après ça, ma mère est venue à la maison, rayonnée de joie. Moi aussi, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus et ma vie a été changée. Donc, je rentre à l'école l'année suivante et je commence à réussir encore de nouveau. Je commence à sourire et faire des amis. Et puis, mais les gens l'ont avoué par la suite. Ils ont dit, ah, oh, mais tu sais, wow, tu as vraiment changé parce que tu sais que l'année passée, tout le monde était d'accord que tu étais la personne la plus conne à l'école. Hein? Et c'est ça que je sentais aussi. J'avais le sentiment d'être la personne la plus conne, la plus stupide, le plus gros zéro de toute l'école. Mais combien de vous savez que en Jésus-Christ, il n'y a pas de zéro, il n'y a que des héros. Amen. En Jésus-Christ, il n'y a pas une personne qui est inférieure à une autre personne. Nous sommes différents, nous avons les choses différentes à faire, mais il faut jamais donner place à l'infériorité. Regardons le verset 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je suis pas une main, je suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? C'est ridicule, n'est-ce pas? Mais c'est ça qui arrive dans les églises, même dans les familles. Souvent, les enfants vont se comparer les uns avec les autres. Peut-être il y a plusieurs enfants. Il y a un enfant qui va réussir dans un domaine et les autres enfants vont réussir dans les autres domaines. Mais s'ils ne font pas attention, ils vont se comparer et vont avoir un sentiment d'être inférieurs à leurs frères, à leurs sœurs. Ils ne sont pas inférieurs, ils sont juste différents, n'est-ce pas? Hein, peut-être vous pouvez voir des personnes ici qui jouent la drum et waouh, ils jouent bien, ou qui jouent la guitare, ou qui chantent, et toi, tu chantes faux, tu n'es pas capable. Tu n'as pas vraiment la notion de la musique et tu peux avoir l'impression d'être inférieur. Tu vois les personnes qui prêchent ou qui enseignent et qui sont à l'aise devant le public et vous dites, mais moi, je suis pas comme ça. Donc, vous pouvez commencer à avoir un sentiment d'infériorité. Moi, qu'est-ce que ça donne? Si je viens dans l'église, bon, personne va me manquer si je vais pas. Je fais pas grand-chose de toute façon. Non, il faut jamais donner place à cette attitude parce que tous les membres du corps sont importants, n'est-ce pas? Alléluia! Tous les membres sont importants et personne ne devrait avoir un sentiment d'infériorité. Je ne suis pas grand-chose, pas grand-chose. Oui, mais vous êtes quelque chose de très important. Amen. Alléluia. En fait, numéro 3, appréciez l'importance de votre place. Si vous voulez rester ensemble, parce que savez-vous quoi? Laisse-moi vous dire. Je vais reculer juste un petit peu aussi. Ça va de pair avec le point qu'on est en train de faire. Parce qu'on parle de comment rester ensemble. On parle dans le fond de comment éviter la division dans un couple, dans une famille, dans une église, etc. Et vous dites, mais qu'est-ce que ça a à voir? Si moi j'ai un sentiment d'infériorité, comment est-ce que ça va diviser mon mariage? Laisse-moi vous dire une chose. Une femme qui ne croit pas qu'elle est digne d'être aimée de son mari va amener la division dans son couple. Pourquoi? Parce que monsieur est en amour avec son épouse, mais elle n'y croit pas. Et il essaie d'exprimer son amour, mais elle ne reçoit pas l'amour parce que on ne peut pas recevoir l'amour de quelqu'un si on ne s'aime pas soi-même. Est-ce que vous me suivez? Donc, ça cause des divisions. Dans une église, c'est la même chose. Quelqu'un qui dit, mais moi, je ne suis pas vraiment important. Ceux qui prêchent, ceux qui chantent, ceux qui font des choses visibles sont importants, mais moi, je n'ai pas vraiment un grand rôle à jouer. Comment est-ce que ça peut diviser le corps? Mais c'est facile à voir. Parce que l'ennemi vient et dit, mais qu'est-ce que ça va changer si tu restes au lit ce matin? Ça ne changerait rien. Oui, ça change tout. Ça change tout parce que vous avez quelque chose dont nous avons besoin. Imaginez si votre cerveau décide que, bon, ce matin, je reste au lit. Ou votre cœur décide, je vais rester au lit. Ou votre bras décide, je vais rester au lit, je vais envoyer le restant de mon corps. Ça ne marche pas. On a besoin de tous les membres, n'est-ce pas? Et tous les membres sont importants. Si on veut rester ensemble, il ne faut pas avoir un sentiment d'infériorité, mais aussi, il faut apprécier l'importance de votre place. Regarde quelqu'un a dit, j'ai une place importante. OK? Regardons ceci, verset 17. Si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tout lui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé, soulignez cette phrase, Dieu a placé, Dieu a placé, Dieu a placé. Je vais le dire encore, Dieu a placé. Amen? Dieu a placé des membres dans le corps comme il a voulu. Penses-tu que Dieu a du bon sens? Est-ce qu'il est assez intelligent pour nous placer à la bonne place? Je crois qu'il sait qu'est-ce qu'il fait. Des fois, on va poser des questions, on va avoir des doutes, on va avoir des points d'interrogation. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu prendrais un gars de Saint-Louis au Missouri, en anglophone, pourquoi est-ce que tu mettrais en lui une vision pour le Québec? Pourquoi est-ce que tu l'enverrais prêcher en français? Ce serait bien plus facile de le faire en anglais. Sauf que maintenant, j'ai de la difficulté à prêcher en anglais parce que tous mes versets sortent en français. C'est vrai. Mais ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? C'est ridicule. Mais Dieu utilise des choses folles pour confondre la sagesse des hommes, n'est-ce pas? Mais appréciez l'importance de votre place. Vous avez une place importante. Je ne suis pas grand-chose, mais vous êtes quelque chose. On pense encore, on pense à un auto. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient avoir une belle auto? Hein? Moi, je parle toujours des BMW parce que j'ai eu la chance de conduire un BMW une fois pendant une semaine et c'était tellement le fun. Il y a déjà 20 ans de ça, mais waouh, je m'en souviens toujours. C'était vraiment le fun. Quelqu'un m'a prêté son BMW. Waouh, quelle responsabilité. Mais ça serait le fun d'avoir un BMW, n'est-ce pas? Mais c'est quoi la partie la plus importante du BMW? Hein? Qu'est-ce que ça donnerait quelqu'un de vous offre un BMW, mais il n'y a pas de roue? Mais c'est juste un pneu. Qu'est-ce que ça fait un pneu? Tu peux avoir un BMW flambant neuf, sauf qu'il y a juste un nick, tu ne peux pas mettre des pneus sur ce char-là. Qu'est-ce que ça donne? Sans les pneus, mais un pneu, tu sais, un pneu, c'est bas. Un pneu, qu'est-ce... qu'est-ce qu'un pneu fait? Pas grand-chose, hein? C'est noir, c'est pas tellement joli, et puis quand la route est sale, il y a toutes sortes de cochonneries sur la route, c'est la pneu qui doit traverser ça. Et peut-être il y a des gens dans le corps de Christ qui se sentent comme des pneus. Je suis un pneu. Tout ce que j'ai fait dans la vie, je dois... Je marche toujours dans le... Qu'est-ce que je fais? Mais vous êtes important. Même si vous êtes un pneu, c'est sûr que, hein, on peut voir d'autres pièces qui sont peut-être beaucoup plus jolies, qui ont plus d'allure, et c'est c'est brillant, ça, c'est merveilleux, c'est ça qui donne le look dans un BMW, mais, oui, le BMW sans les pneus, c'est pas grand-chose. Un BMW sans les bougies dans le moteur, qu'est-ce que ça donne? Pas grand-chose. Enlève les bougies. Personne les voit, hein? Franchement, ceux qui aiment les autos, et moi, je suis pas vraiment un mordu des autos, mais j'utilise ça comme un exemple, mais quelqu'un qui voit une belle auto pour la première fois, hein? La plupart des gens vont pas dire, waouh, ça doit, les bougies là-dedans doivent être vraiment extra, hein? Ou, la première chose qu'ils vont faire, c'est pas, oh, laisse-moi voir les fusibles. J'ai hâte de voir les fusibles dans ce... Non, mais les fusibles, probablement, il n'y a pas une grande différence. Vous êtes d'accord? C'est normal, standard, c'est un fusible. Mais sans le fusible, le char ne marche pas. Et sans vous, le corps de Christ ne marche pas comme il doit marcher, non, comme il doit marcher non plus. Amen. Donc, la bonne nouvelle, c'est que même si vous êtes un pneu, vous savez, le mot en grec pour l'esprit, c'est pneuma. Un pneuma. C'est-à-dire qu'on, pour qu'un pneu soit efficace, le pneu doit être rempli de quelque chose, n'est-ce pas? Et que, si vous êtes un pneu, le meilleur conseil que je vous donne, soyez rempli de l'esprit. Et vous allez pouvoir traverser les endroits sales sans difficulté. Et apporter tous les passagers à leur destination en toute sécurité. Amen. Vous êtes importants. Numéro 4. Refusez une attitude de supériorité. On a parlé de l'autre, un extrême. Un extrême, c'est que je suis bon à rien. Je suis un ver de terre. Je suis rien. Je suis un pneu crevé. Mais... Mais l'autre extrême, c'est les gens qui disent, moi je sais que je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un d'important. Et puis, si on ne fait pas attention, on tombe dans l'autre piège. Une piège. Et c'est pourquoi il ne faut pas se comparer les uns avec les autres, parce qu'il y a juste deux choses qui se passent quand on se compare avec les autres. Soit, on arrive avec un sentiment d'infériorité, ou on peut avoir un sentiment de supériorité. Je suis quelqu'un. Vous êtes vraiment béni de m'avoir comme frère, n'est-ce pas? Je sais que vous aimeriez être comme moi, mais... Désolé, vous êtes un pneu. Et vous, vous êtes quoi? Je ne sais pas, mais... Donc, refusez l'attitude de supériorité. Regardons. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Faisons attention dans le corps de Christ. Faisons attention dans vos mariages, dans vos relations. Pensez jamais que vous êtes plus important que les autres. Il y a des hommes qui pensent qu'ils sont plus importants que leurs femmes. Il y a des femmes qui pensent qu'elles sont plus importantes que leur mari. Il y a des personnes dans les églises qui pensent qu'ils sont plus importants que les autres. Mais nous sommes tous importants aux yeux de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, refusez une attitude de supériorité. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire? Prochainement, numéro 5. Honorer tout le monde sans faire du favoritisme. Honorer. Vous savez que vraiment le remède à toutes ces choses, c'est l'honneur. L'honneur. Et quand on va honorer quelqu'un, on va donner la valeur, la juste valeur à la personne. Moi, je sais que si je vais honorer mon épouse, il faut que je comprenne, premièrement, qu'elle fait partie du corps de Jésus. Jésus est la tête, mais elle est un membre du corps. Donc, si je fais quelque chose à mon épouse, si je dis quelque chose à mon épouse, je le dis à Jésus. Mais c'est la même chose pour vous. Sans exception, chacun de vous, vous êtes dans le corps de Christ. Vous êtes important, je suis important. Il faut la vérité. Laisse-moi juste reculer encore un peu. C'est quoi vraiment le remède de l'orgueil? C'est l'humilité, n'est-ce pas? Mais c'est quoi la bonne définition de l'humilité? Comment est-ce qu'on trouve l'équilibre dans ces choses? Comment est-ce qu'on peut éviter un sentiment d'infériorité ou un sentiment de supériorité? C'est simple. L'humilité égale la vérité. Écrivez cela. L'humilité égale la vérité. Donc, si tu penses selon la vérité, si tu parles selon la vérité, si tu agis selon la vérité, vous n'allez pas être orgueilleux et vous n'aurez pas non plus un sentiment d'infériorité. Parce que c'est quoi la vérité? La vérité, c'est que sans Jésus, je suis rien et je peux rien faire. Jésus l'a dit, sans moi, tu peux rien faire. Mais la vérité, c'est aussi que je puis tout par celui qui me fortifie. La vérité, c'est que je suis un membre du corps, je suis important, mais je ne suis qu'un seul membre et j'ai besoin de tous les autres membres. Ça, c'est la vérité. Donc, la vérité vous affranchira. Et la vérité va vous garder ensemble. On parle de comment rester ensemble, n'est-ce pas? Comprenez ce qui signifie d'être un, donnez jamais de place, un sentiment d'infériorité, appréciez l'importance de votre place, refusez une attitude de supériorité et puis honorez tout le monde sans favoritisme. Verset 22. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons entre les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Et le mot honnête, ça ne veut pas dire que les gens vont mentir. Mais n'oubliez pas, si on peut le dire comme faux, Paul est en train de parler d'un corps physique. Et vous savez, il y a certaines parties de votre corps physique qui sont délicates, n'est-ce pas, et qui sont entourées et qui sont bien protégées, n'est-ce pas? Donc, c'est ça qu'il veut dire par cela. Et que ces membres sont importants, il faut les entourer d'un plus grand honneur, il faut les protéger, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Il y a certains membres, on n'a pas besoin de faire une grosse affaire parce que c'est évident, c'est clair, tout le monde le voit, n'est-ce pas? On pense aux personnes qui font de la musculation et on peut voir les biceps, ça se voit. Mais il y a d'autres parties de leur corps qui sont cachées, mais aussi important que les biceps. Vous êtes d'accord? Amen. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est honorer. 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 Moi, je te dois de l'honneur. Et quelque chose qui est bien intéressant, c'est que quand je donne de l'honneur à tous les membres du corps de Christ, ça les libère de fonctionner dans l'onction et les dons que Dieu a investis en eux. Moi, je vois cela. Jésus est allé dans sa propre ville natale, il est allé dans la ville où il a grandi, et quand il prêchait, la Bible dit qu'il ne pouvait pas faire de grands miracles. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. Les gens n'ont pas honoré Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, qui avait l'Esprit sans mesure, il était incapable de fonctionner parce qu'il manquait de l'honneur. Savez-vous combien de gens ici? Il y a des pasteurs qui ont de la difficulté. Il y a des missionnaires qui ont de la difficulté. Il y a des membres de l'Église, des fois, qui ont de la difficulté à fonctionner parce qu'ils manquent l'honneur qu'ils devraient avoir. Je ne parle pas d'un honneur dans le sens charnel. Et écoute, fais attention. Moi, je n'ai pas le droit d'aller dire, Daniel, tu devrais m'honorer aujourd'hui. Hein? Je ne peux pas demander ou exiger ou obliger mon épouse de m'honorer.
Femme, sois soumise. Donne-moi de l'honneur.
Combien de vous êtes d'accord que ça ne marchera pas? Toutes les femmes sont bien d'accord, même que ça ne marcherait pas. Non, l'honneur, c'est quelque chose qu'on doit. On peut recevoir, mais on ne peut pas demander ou exiger. Amen. Moi, je vais exiger à mes enfants de ça, c'est une autre chose. Quand nous avons des personnes sous notre charge qui... Moi, je l'exige, et c'est obligatoire dans notre famille que les gens parlent avec douceur et qu'ils parlent avec politesse les uns avec les autres. Je peux les exiger dans ce sens-là. Vous comprenez? Mais l'honneur, c'est un élément clé. On pourrait faire toute une série là-dessus, parce que quand nous donnons l'honneur, nous relâchons les dons, nous relâchons la puissance de Dieu, et le corps s'édifie dans l'amour. Amen. Donc, numéro 6, éviter la division à tout prix. On parle de comment rester ensemble. Éviter la division à tout prix. Il y a trop de gens dans les relations, dans les mariages, c'est ça. Dans les églises, c'est la même affaire. Il y a trop de gens qui sont trop vite à couper les relations avec les gens. Ça va pas, j'aime pas ton affaire, j'aime pas ta coiffe aujourd'hui, j'aime pas qu'est-ce que tu as fait avec tes cheveux, donc je suis plus ton ami. Mais pensons à cela. Pensons à qu'est-ce qu'on fait. Combien de fois on voit des couples qui sont dans l'amour et puis on les voit quelques mois, quelques années plus tard, « Ah non, je l'ai laissé, je l'aime plus. » Ils ont coupé la relation. Combien de fois on voit des personnes qui fréquentaient une église et puis quelques années plus tard, « Ah non, je ne vais plus à cette église, oh, je ne veux rien savoir. » Ils ont coupé les relations. Savez-vous quoi? La chose la plus importante que nous avons sur la terre, c'est nos relations, notre relation avec Dieu et notre relation avec les autres. Est-ce que vous êtes là? C'est bon, ça. Merci, Seigneur Jésus, tu es tellement bon. Donc, qu'est-ce que je veux dire ce soir, ce matin? C'est pas ce soir, pas encore. Je promets, je vais pas prêcher jusqu'à ce soir. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Parce que je veux éviter la division à tout prix. Il y a trop de gens qui sont prêts à couper. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des démangeaisons dans votre corps? C'est agaçant, n'est-ce pas? Ça pique des fois. L'herbe à... C'est quoi l'herbe à pousse, c'est ça. Pousse, c'est ça, parce qu'il y en a deux. L'herbe à puce. Poison ivy. L'herbe à puce. C'est agaçant, c'est désagréable, ça fait mal. Mais qu'est-ce que tu fais? Ton enfant arrive, oh, ça pique, ça chauffe, oh. Qu'est-ce qu'on fait? On lui donne une hache? Oh, ben écoute, je suis bien d'accord, je coupe ça. Impensable, n'est-ce pas? C'est impensable, on ne ferait jamais ça. Ouh, j'ai mal, hein? J'ai mal aux pieds. OK, bon, voici la chaîne, le scie à chaîne, donc. On peut régler ça vite. Bon, mais savez-vous que la hache, la scie à chaîne, c'est pas la solution quand vous avez mal dans votre corps. La solution, c'est pas couper. La solution, c'est soigner. N'est-ce pas? Si j'ai mal, si ça m'agace, si ça me dérange, c'est vrai que des fois, moi, j'ai eu des moments où ça me tentait de me débarrasser de certains membres de mon corps. Quand j'avais mal, c'est comme... Non, mais c'est pas ça la solution. Et dans la famille de Dieu, c'est la même chose. Dans votre mariage, c'est vraiment pas la solution non plus. Se débarrasser d'un membre précieux, c'est pas la solution. Bien entendu, il y a un équilibre à cela. Il y a des places dans la parole où la Bible dit que s'il y a des personnes qui causent des divisions, qu'il faut marquer ces personnes et garder une certaine distance. Mais toujours, on est toujours prêt à être réconcilié avec les personnes si les personnes se répandent. Vous comprenez? Mais là, on parle la plupart des fois, 90% des fois, si on a une division dans une église ou dans un couple, c'est pas des choses irréconciliables. Vous êtes d'accord? C'est juste que les gens ne sont pas prêts à payer le prix d'être réconciliés. Wow! Silence, on digère sur leurs 4 minutes. Hein. Le verset dit, « Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. » Pourquoi? Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Une chose que l'ennemi aime faire, c'est diviser, n'est-ce pas? Mais une chose que Dieu aime faire, c'est multiplier. Vois-tu? Dieu, c'est un Dieu de multiplication. L'ennemi, c'est quelqu'un de la division. Puis numéro 7, finalement, qu'est-ce qu'on fait pour rester ensemble? Apprenez à souffrir et à se réjouir avec les autres. Ben, je pensais que tu as dit, Pasteur, qu'on va avoir le fun cette année. Oui, on va avoir le fun. Mais savez-vous quoi? On a tous des choses, des moments difficiles dans la vie. Et des fois, c'est bon, hein? N'est-ce pas bon quand ta main a mal? C'est bon de savoir que tu as une autre main qui peut le soigner. Quand tu as mal à l'orteil, tu peux avoir deux mains pour aller soigner cela, n'est-ce pas? Et c'est ça que nous avons besoin d'apprendre. Moi, j'ai encore beaucoup de route à faire là-dessus. Je sais que vous êtes peut-être déjà rendu. Combien de vous savez que notre tendance, c'est de penser à qui? Soi-même. Mes affaires, mes problèmes, mes bobos. Parce que nos problèmes sont toujours plus graves que les problèmes des autres, n'est-ce pas? Nos affaires sont toujours plus pressantes et plus importantes que les affaires des autres. Ça, c'est une tendance normale et naturelle, mais qui n'est pas bon. On a besoin de penser d'abord à Dieu, à ce qu'il veut, c'est quoi son plan, c'est quoi son désir, et de se conformer à sa volonté. Amen. Apprenez à souffrir et à se réjouir avec les autres. Regardons. Mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, si un pneu est crevé, je suis qu'un pneu, tous les membres souffrent. Et c'est vrai, n'est-ce pas? Mais c'est juste un pneu. Hein? Vous êtes sur la 55, en route pour aller à Québec, et puis, boum, crevaison. Mais c'est juste un pneu. Qu'est-ce que vous faites? Ah, oh, ben c'est juste un pneu. Je vais continuer. Non, on a besoin d'apprendre. Et moi-même, moi, je parle pour moi. OK? Je ne prends pas le doigt parce que si je prends le doigt, il y en a 3 qui pointent vers moi, n'est-ce pas? J'ai besoin d'apprendre davantage à souffrir avec ceux qui souffrent. Mais aussi, si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Comment est-ce qu'on doit rester ensemble? On doit être sensible. Il faut juste avoir encore, ça revient au premier point. Comprendre et avoir la révélation de qu'est-ce que cela veut dire d'être un. Si un membre gagne, tous les membres gagnent. Si un membre perd, tous les membres perdent, n'est-ce pas? C'est pourquoi on ne devrait jamais se réjouir. Si notre église a des problèmes, on ne devrait jamais être content, mais notre église va bien. Non, c'est pas bon. Moi, je veux gagner et je veux marquer les points pour l'équipe de Dieu. Et je veux que toutes les églises marquent des points pour l'équipe de Dieu, n'est-ce pas? Alléluia! Que c'est bon, c'est merveilleux. Cette chose qu'on peut faire pour rester ensemble. Encore. C'est des choses à méditer, à mettre en pratique. Comprenez ce qu'il signifie d'être un. Ne donnez jamais place à un sentiment d'infériorité. Appréciez l'importance de votre place. Refusez une attitude de supériorité. Honorez tout le monde sans favoritisme. Évitez la division à tout prix et apprenez à souffrir et à se réjouir avec les autres. Mettons cela en pratique et vous allez voir que c'est là où le Seigneur va envoyer sa bénédiction. Moi, je m'attends à voir beaucoup de bénédictions cette année. Et vous? Pourquoi? Parce que nous allons rester ensemble, avec une passion et à l'unisson. Amen. On va se lever debout, on va prier ce matin. Alléluia. Juste restons sensibles à la à l'Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. J'aimerais inviter tout le monde à rester quelques minutes de plus, sans bouger trop. Parce que, qu'est-ce qui se passe maintenant, là, c'est peut-être la partie la plus importante de toute la réunion. Pourquoi? Parce que ça peut déterminer la différence entre le ciel et l'enfer pour quelques personnes ici. Est-ce que des gens qui sont contents de savoir, sans aucune doute, que vous allez au ciel, que vous allez passer l'éternité avec Jésus? Moi, je pense que ça serait juste normal, juste correct, tout à fait normal pour nous de donner la même occasion à tout le monde qui est ici présent, n'est-ce pas? Savez-vous, aujourd'hui, nous avons parlé de la signification d'être dans encore le corps de Christ. Mais la réalité, c'est que tout le monde n'est pas automatiquement dans le corps de Christ. C'est seulement et uniquement ceux et celles qui ont donné leur vie à Jésus. En fait, j'aimerais juste vous montrer trois images, rapidement. Et je vais vous poser la question, où est-ce que vous vous trouvez selon ces images? Regardons, première image, j'espère que c'est là. Est-ce que c'est pas là ce matin? C'est pas là, mais c'est pas grave. Ouais, c'est là, je pense. Parce que la première image que vous allez voir, je crois, mais même si c'est pas, je veux que vous fassiez cette image dans votre tête. C'est que nous avons un Dieu qui est saint à 100%. Mais nous, nous sommes séparés d'avec lui par le péché. Combien de vous, voilà. Le péché nous sépare de notre Dieu, notre Créateur. Et aussi longtemps que nous sommes séparés d'avec Dieu, nous ne sommes pas dans le corps de Christ, nous ne sommes pas dans sa famille. En fait, la Bible dit qu'il y a juste deux familles sur la terre, la famille de Dieu et la famille de Satan. Et vous n'avez pas besoin de choisir d'être dans la famille de Satan, nous sommes tous venus au monde. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc même si vous êtes une bonne personne, vous dites, mais moi je lis la Bible tous les jours. Lire la Bible ne peut pas faire de toi un enfant de Dieu. Mais je vais à l'église. Écoute, tu restes chez McDo toute la nuit, tu ne dirais pas un hamburger, oui. Et si tu restes à l'église toute la journée longue et chaque jour de la semaine, tu ne vas pas devenir un enfant de Dieu non plus. Le péché a séparé tout le monde. Mais voici une bonne nouvelle. Il n'y a rien qu'on peut faire. On peut essayer, on peut travailler, on peut essayer les bonnes œuvres, être gentil, prier beaucoup. Ça ne marcherait jamais, on ne serait jamais capable de faire un pont qui est assez long pour rejoindre Dieu. Et voici la bonne nouvelle. Deuxième image, c'est que Jésus lui-même, il est le pont. Parce que Jésus est à la fois Dieu et homme. Dieu s'est fait chair. Et c'est pourquoi Dieu est capable de nous toucher à travers son Fils Jésus. Et nous sommes capables de rejoindre Dieu et de faire partie de sa famille. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont dire, oui, je crois. Avec ma tête, je vois que Jésus est le seul moyen. Je ne peux pas me sauver moi-même. Mais ils voient la croix. Ils voient Jésus, mais ils n'ont jamais pris une décision de traverser le pont. C'est pas mieux. C'est pourquoi la dernière image que je veux vous montrer. Posez-vous la question. Où êtes-vous? Est-ce que vous êtes toujours de ce côté ici, la mort, la rébellion, le péché, la misère? Ou avez-vous déjà pris la décision de donner votre vie à Jésus? Est-ce que vous avez traversé le pont pour recevoir la vie éternelle? La Bible dit que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus, un Seigneur, c'est un maître. C'est-à-dire qu'il est ton patron à partir d'aujourd'hui. C'est plus toi qui conduis, mais c'est Dieu qui prend le volant de ta vie. Amen. Si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité mort, tu seras sauvé. Et Jésus a dit ceci, que si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père. Donc aujourd'hui, je vous donne l'occasion, pas de devenir membre de la vie comblée, mais de devenir membre du corps de Christ, qui est très grand. Peu importe le nom au-dessus de la porte d'une église, c'est pas ça qui compte. Qu'est-ce qui compte? La seule chose qui compte, c'est est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Et est-ce que tu as dans ton cœur l'assurance d'avoir la vie éternelle? Si tu quittes aujourd'hui et ton cœur arrête de battre, est-ce que tu sais sans aucune doute que tu es déjà du bon côté et que tu vas passer l'éternité avec Jésus? Sinon, bonne nouvelle, je vous donne l'occasion. Aujourd'hui, je peux prier avec vous et vous pouvez partir d'ici avec cette assurance. Je vais compter à toi, je vais taper ma main. Quand je tape ma main, si tu veux donner ta vie à Jésus, tu veux le confesser, tu veux être sûr et certain sans aucune doute que tu es sauvé, tu lèves ta main haut dans l'air et nous allons prier pour toi. Donc, est-ce qu'il y a des gens ici aujourd'hui qui ont besoin de traverser le pont et de donner leur vie à Jésus et de faire partie du corps de Christ sans aucune doute? Si tu veux le faire aujourd'hui, lève ta main. 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin? Je te donne l'occasion, je lève ta main. Moi, je crois qu'il y a des gens ici qui ne l'ont pas encore fait. Encore, Jésus dit, si tu me confesses devant le Père, je te confesserai. Est-ce qu'il y a quelqu'un juste là? Vite, vite. Sinon, moi, je ne prends pas beaucoup de temps, mais je te donne l'occasion. Ma conscience est pure et nette. Je vous ai donné la chance aujourd'hui de donner votre vie à Jésus parce qu'il vous aime. Sûr? Quelqu'un qui veut le faire ce matin? Oui, tu veux le faire. Amen. Viens ici. On va prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce que je le fais? Écoute, ici, tout le monde aime Jésus. Ton nom? Benoît. Benoît n'a pas honte de dire à tout le monde qu'il veut suivre Jésus, n'est-ce pas? Si quelqu'un n'est pas capable de dire « Oui, je veux suivre Jésus devant les chrétiens », qu'est-ce qu'il va faire quand il est dans le monde? Les gens qui ne croient même pas. Je lui donne la chance aujourd'hui de dire publiquement qu'il veut suivre Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut se rejoindre à Benoît ce matin? Je vais lever la main vite dans l'air. Alléluia. Je savais qu'il y avait au moins une personne ce matin. On va prier cette prière avec toi, Benoît. Et j'aimerais que tout le monde prie avec nous. Donc, juste fais cette prière de ton cœur. Parce que Dieu t'aime et il va honorer ce pas de foi que tu fais maintenant. On va prier ceci. Merci, Père Céleste. Je viens à toi au nom de Jésus. Et je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois de tout mon cœur que Jésus est ressuscité. Et merci Seigneur qu'aujourd'hui je fais partie de ta famille, de ton corps. Je suis membre du corps de Christ. Et je suis important. J'ai une place. Et je vais découvrir cette place. Donc, merci Seigneur. Mes péchés sont pardonnés. Je suis une nouvelle création. Au nom de Jésus, je sais que je suis sauvé, que je vais passer l'éternité avec toi. Merci pour ton aide, parce que je vais te suivre pour le restant de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen.